VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lydon et Claire Morin-Gibour à la présentation. Bienvenue dans cette édition du jeudi 2 juin 2016, à la une ce soir.
Somalie, le bilan de l'attaque contre l'hôtel ambassadeur de Mogadiscio est passé à 24 morts.
Obsèques aujourd'hui des 3 policiers tués cette semaine dans le nord du Burkina.
Au Burundi, plus de 300 lycéens renvoyés de leur école pour avoir gribouillé un portrait du président Nkurunziza.
Dans la page sport, le football béninois a crise et dans le collimateur de la FIFA. Et aussi, la grande finale de la NBA débute ce soir. Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine, donc en Somalie, le bilan de la fusillade de jeudi matin à l'hôtel ambassadeur à Mogadiscio est à présent de 24 morts. Cela comprend également les hommes armés qui ont mené l'attaque que les forces de sécurité ont tué. Maïli Segel.
L'attaque a commencé tard mercredi avec l'explosion d'une voiture piégée devant l'hôtel. Puis des hommes armés ont ouvert le feu sur les clients. Selon le ministre de la Sécurité, Abdirizak Omar Mohamed, au moins 17 personnes, dont 12 civils, 3 gardes de sécurité et 2 membres du Parlement, ont été tués dans et autour de l'hôtel. Le directeur de l'hôpital Madina à Mogadiscio a déclaré que 3 autres victimes sont mortes des suites de leurs blessures. Selon le ministre de la Sécurité, les forces de l'ordre ont sauvé ce matin 57 otages qui étaient détenus par les assaillants toute la nuit. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque, affirmant avoir visé cet hôtel situé près du palais présidentiel et utilisé par des responsables du gouvernement. Quelques heures avant, les responsables somaliens avaient annoncé la mort du cerveau de l'attaque à l'université de Garissa au Kenya, Mohamed Mohamud alias Kuno, un ancien professeur kényan d'une école coranique. Il aurait organisé l'attaque qui avait fait 148 morts à Garissa le 2 avril 2015 dans l'est du Kenya.
Au Mali, le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, a dénoncé le piétinement du processus de paix 2 jours après une double attaque contre la force onusienne à Gao, principale ville du nord malien. 12 casques bleus ont été tués au moins au mois de mai. Pour Mahamat Saleh Anadif, la meilleure façon de combattre les terroristes, de les isoler, c'est la mise en œuvre effective de l'accord de paix.
Au Niger, au moins 9 civils ont été tués et 13 autres blessés mardi dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le village Yébi près de Difa. Les assaillants ont fui vers le Nigeria.
Le vice-président nigérien Yemi Osinbajo a lancé aujourd'hui la plus vaste opération de nettoyage jamais entreprise dans le delta du Niger, région de production de pétrole et théâtre de violence. Le président Muhammadu Buhari a finalement renoncé à se rendre. Cet ambitieux programme de nettoyage, estimé à 1 milliard de dollars, répond à une alerte lancée par l'ONU dès 2011, invitant le premier producteur de pétrole du continent africain à restaurer un environnement dégradé. C'est aussi l'une des revendications d'un nouveau groupe rebelle qui multiplie les attaques contre les installations pétrolières depuis le début de l'année. Nous reviendrons sur le Nigeria dans la seconde partie de cette édition.
Au Burkina, les 3 policiers tués mardi lors de l'attaque terroriste de leur poste de Intagom à la frontière avec le Mali ont été inhumés lors d'une cérémonie solennelle cet après-midi à Ouagadougou. Pour leur sacrifice, ils ont reçu les hommages de la nation et ils ont été décorés à titre posthume. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Issa Napon.
Il y avait beaucoup d'émotions au cérémonial d'inhumation des 3 policiers tués il y a 72 heures déjà lors de l'attaque de leur poste à Intagom dans le Sahel burkinabé et à la frontière avec le Mali. Pour y assister, un public sorti en masse et des membres du gouvernement burkinabé, dont le ministre d'État en charge de la sécurité, qui a fait passer un message de compassion, mais aussi de fermeté face aux auteurs des attaques répétées sur le sol burkinabé. Simon Compaoré avait du mal à cacher son émotion.
L'action de ces bandits de grand chemin, qui n'est pas exagéré d'appeler terroristes, vise à déstabiliser notre pays, à mettre un frein à son développement et à saper le moral de nos forces de défense et de sécurité.
C'est au cimetière municipal de Gungun, à l'ouest de la capitale, que vont reposer les trois assistants de police adjoints Koulibaly Kanidi Michel, Silga Philibert et Thiolet Tilbou, qui ont reçu les hommages de la nation pour leur sacrifice. Ils ont été élevés à titre posthume à la dignité de la médaille d'honneur de la police nationale. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Gabon, plusieurs syndicats et organisations de la société civile proches de l'opposition ont annoncé aujourd'hui la création d'un mouvement citoyen baptisé Témoins actifs pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici la fin de l'année.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a donné 15 jours aux insurgés de la commune de Mugamba pour se rendre. Il les menace d'une répression brutale, comme à Bujumbura Rural en 2010. Également, des étudiants, donc des lycéens, des collégiens, voilà, on me fait préciser, ont été renvoyés de leur école pour avoir gribouillé un portrait du président Pierre Nkurunziza. Plus d'explications avec Eric Manirakiza.
Ces collégiens de la deuxième année du secondaire ont ciblé la photo du chef de l'État dans un manuel scolaire, un livre de sciences humaines. Ils ont troué les yeux, gribouillé la photo et l'image a été couverte de propos insultants ou contestant le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Selon un des parents cités par l'AFP, le retour à l'école sera conditionné de la dénonciation des auteurs de ces actes que la direction de l'école qualifie de crime. Une source jointe par VOA Afrique confirme les faits. Certains élèves seraient même en garde à vue. Les services secrets se sont mêlés de l'affaire et tout le monde a peur, a dit un des enseignants qui affirmait que les classes ont été fermées par des militaires. Les parents d'élèves avaient même demandé pardon et proposé à la direction d'acheter de nouveaux livres, mais leur offre est restée lettre morte.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, presse le Soudan d'arrêter de renvoyer de force des centaines d'Érythréens vers le pays, vers leur pays d'origine, qu'ils tentent de fuir. Hier, l'ONG Human Rights Watch a averti que ces Érythréens risquent d'être victimes d'abus de la part du gouvernement de leur pays à leur retour. Selon le HCR, près de 450 Érythréens ont été arrêtés début mai par les autorités soudanaises et jugés coupables d'entrée illégale au Soudan. Ils ont été renvoyés de force en Érythrée.
Au Malawi, la justice a interdit à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer après une série d'assassinats d'albinos dans le cadre de pratiques de sorcellerie. Le jugement interdit également aux journaux de publier des encarts publicitaires, les encarts publicitaires des guérisseurs traditionnels. Au Malawi, la police a enregistré 65 attaques, enlèvements ou assassinats d'albinos depuis fin 2014. Les Nations Unies ont lancé un cri d'alarme en avril pour dénoncer ces exactions, estimant que les 10 000 albinos du pays étaient en danger d'être exterminés.
Plusieurs associations de défense des droits de l'homme expriment leur inquiétude face à la montée d'une brutale répression en Gambie à 6 mois de la présidentielle. La CDAO doit tenir demain un sommet à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. En Libye, 6 responsables de l'ancien régime de Muammar Kadhafi, condamnés pour la répression de la révolte contre le dictateur en 2011, vont être libérés de prison en attendant leur procès en appel. La Cour suprême a décidé de suspendre leur incarcération pour des raisons liées à leur état de santé ou à leur âge, à la demande de leurs avocats. Les 6 avaient été condamnés en première instance le 28 juillet 2015, à des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité.
Au moins 9 personnes sont mortes et 4 autres disparues à la suite des inondations dans le sud-est de l'Allemagne. En France aussi, plusieurs régions ont les pieds dans l'eau. Le point avec Gabi Dorsil.
Habitants embarquent dans les rues inondées, certains réfugiés sur les toits, décomptent des morts et recherchent des disparus. C'est l'ambiance qui régnait aujourd'hui dans plusieurs localités en Bavière. Dans une petite ville proche de la frontière autrichienne, épicentre des inondations, les plongeurs ont découvert dans une maison trois victimes d'une même famille. Une femme de 80 ans est morte emportée par les eaux lorsque sa maison s'est effondrée. Angela Merkel a loué l'esprit de solidarité de ses compatriotes dans cette situation d'urgence. En France, la région parisienne et le département voisin du Loiret se trouvaient toujours en alerte avec quelques 24 400 foyers privés d'électricité. La Seine a débordé par endroits. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la création d'un fonds exceptionnel de soutien aux victimes et la météo prévoit de la pluie et encore de la pluie.
Les autorités allemandes ont annoncé jeudi avoir déjoué un projet d'attentat-suicide du groupe État islamique fomenté par des Syriens, certains entrés en Europe par la Grèce. Selon les résultats de l'enquête en cours, trois suspects arrêtés en Allemagne et un détenu en France envisageaient de perpétrer un attentat-suicide pour l'organisation terroriste étrangère État islamique dans la vieille ville de Düsseldorf. C'est ce qu'affirme le parquet fédéral allemand dans un communiqué.
Un attentat-suicide a fait 2 morts et 4 blessés ce jeudi près d'une mosquée dans la ville de Latakié, un fief du régime de Bachar al-Assad dans le nord-ouest de la Syrie. Selon la télévision d'État, le kamikaze a détonné son engin explosif à la sortie des fidèles d'une mosquée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a de son côté parlé de 3 morts dans l'attaque-suicide.
Colère à Ankara après le vote des députés allemands aujourd'hui reconnaissant le génocide arménien. Berlin souhaite que la Turquie évite des réactions excessives. Les relations sont déjà tendues avec Ankara.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
D'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Chérubin Gabi Dorsil.
Un nouveau dirigeant à la tête de l'OPEP, Mohamed Barkindo, ancien patron de la Compagnie nationale des hydrocarbures du Nigeria, a été élu ce jeudi au poste de secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il succède au Libyen Abdallah Salem El Badri. Au Sénégal, le marché de confection des nouvelles cartes nationales d'identité biométrique va coûter 50 milliards de francs CFA. 10 millions de cartes d'identité devront être produites en 5 ans et c'est la société malaisienne Iris Corporation Berhad qui a remporté le marché. La même société avait obtenu en 2007 le contrat de fabrication des passeports biométriques sénégalais. Au Cameroun, la Camerco, la compagnie aérienne nationale, bat de l'aile et cela préoccupe le législatif. Kavaï Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, l'a évoqué dans son discours d'ouverture de la session parlementaire ce jeudi à Yaoundé. Camerco est plongée dans une profonde crise financière et managériale depuis sa création en 2011. Et malgré l'appui du gouvernement camerounais, cette compagnie reste un gouffre financier.
Une musique qui ne trompe pas, Bagassi Koura est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir John Lindon, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la CAN 2017, l'Algérie qualifiée.
Oui, les Fenech se sont tranquillement imposés aux Seychelles 2-0 grâce à des buts de Benzia. C'est d'ailleurs son premier but en équipe nationale et Soudani. Les équipes, les Fenech donc décrochent ainsi leur billet pour la phase finale au Gabon, rejoignant le pays organisateur et le Maroc.
On reste en football, plusieurs nouvelles concernant le Barça.
Oui, d'abord, Dani Alves qui quitte le club, le défenseur international brésilien, va quitter donc le FC Barcelone avec lequel il a réussi le doublé Coupe Championnat cette saison. C'est ce qu'a indiqué le club catalan. Alves, âgé de 33 ans, sous contrat jusqu'en juin 2017, nous a déjà dit qu'il a l'intention de quitter le club. C'est ce qu'a déclaré le directeur technique du Barça, Robert Fernandez, en conférence de presse.
Neymar sera proche d'un accord avec le FC Barcelone.
Oui, un accord qui permettra à l'attaquant international brésilien de prolonger son contrat, engagé avec les Blaugranas jusqu'en 2018. Le prolifique attaquant de 24 ans fait l'objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois.
Mais en février, le joueur se montrait déjà optimiste quant à la prolongation de son contrat.
On parle ce soir de la finale NBA 2016, Bagassi.
Oui, une finale entre le champion en titre Golden State et Cleveland qui va donc opposer à partir de jeudi deux des joueurs les plus connus de la planète, Stephen Curry du côté de Golden State et LeBron James à Cleveland, mais aussi deux entraîneurs de la nouvelle génération et des lieutenants aux rôles cruciaux. Ce soir, c'est le tout premier match d'une série de 7.
Toujours à NBA, les Knicks, eux, ont un nouvel entraîneur.
Oui, il s'agit de Jeff Hornacek, déjà largement anticipé par la presse américaine. Hornacek, âgé de 53 ans, va devoir relancer une équipe de New York qui n'a plus participé aux playoffs de la NBA depuis 2013.
Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Claire Morin-Gibourg et John Linden, si vous venez à peine de nous rejoindre, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour, Claire.
Et nous partons pour le Nigeria, et plus exactement dans le sud-est du pays, la région pétrolière, qui est attaquée depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, NDA, ou les Vengeurs du Delta du Niger. Le président Muhammadu Buhari a finalement annulé sa première visite dans la région, qui était prévue aujourd'hui. Qui sont ces nouveaux rebelles? Élément de réponse avec le professeur Asho Akakuru, qui répondait à Tatiana Mosso.
On croit qu'il s'agit encore de ces groupes sous qui ont existé depuis fort longtemps dans le delta du Nigeria, qui revendiquent, je ne sais pas, parfois un état, parfois de plus bas de pétrole, etc., et qui veulent le contrôle de leurs ressources. Donc c'est un peu confus puisqu'il y a quand même des tendances un peu différentes.
Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils rappellent en tout cas les rebelles du Mende. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces groupes-là?
Ce que l'on dit, on ne sait pas au juste, il est fort possible qu'il y ait de liens entre ce groupe, mais ce qui est vrai, c'est que le problème fondamental, c'est la structure du pays, que certains gens se sentent déniés de ressources de leur région, ils sont sous-développés, même si parfois ce sous-développement peut bien venir de certains gens de la région qui sont au pouvoir, mais le fait reste pour la majorité des gens qui pensent il y a quand même une nécessité urgente de restructurer le Nigeria. Le système actuel favorise des gens qui ne produisent pas tellement les ressources du pays.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les revendications des indépendantistes, des séparatistes qui veulent recréer un état du Biafra?
Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu simpliste de penser qu'il y a un lien viscéral entre les deux mouvements qui peuvent à un certain moment se rejoindre. Mais le fait reste que c'est le même problème de structure du Nigeria que par exemple du côté de Biafra, les Igbo, ce sont hors de jeu politique nigérien alors que c'est un groupe ethnique qui est important. Il semble que dans la répartition des biens du pays, ils sont des lésés pour compte. Ils ne sont pas préparés à accepter.
Qu'est-ce qui alimente ces rébellions à répétition dans cette zone du pays? Qu'est-ce qui fait que les causes semblent aussi profondes?
Tout le monde sait qu'il y a quand même un déséquilibre dans notre pays. La réalité réside, malgré ce que l'on dit, il faut revoir cette structure. Selon ce que j'ai lu dans les journaux aujourd'hui, les gens trouvaient du côté de Biafra, etc., les discours présidentiels, etc., qu'il y a une approche trop simpliste et militariste. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral puisse mener une guerre contre tous ces gens. Ça sera catastrophique. Ça va détruire notre pays et créer des problèmes sous-régionaux pour le Nigeria.
Le professeur Asho Akakuru, joint au Nigeria.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Hissène Habré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crime contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Direction à présent le Burundi, alors que les réseaux sociaux s'enflamment, a annoncé le retour urgent des troupes burundaises en mission en Somalie et en Centrafrique. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Alain Aimé Nyamitwe, a déclaré que sans les troupes burundaises, la Somalie ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La capitale Mogadiscio et plusieurs entités au sud de la Somalie, près de l'océan Indien, sont contrôlées par des militaires de la MISOM. Le même ministre indique que les troupes de la police burundaise travaillent activement pour le rétablissement de la paix à Bangui. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kourouziza.
La conférence de presse du ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération est principalement revenue ce jeudi matin sur le rôle que jouent les militaires et la force de police burundaise dans les missions de maintien de la paix en Somalie. Pour Alain Aimé Nyamitwe, les opposants qui parlent du retrait des troupes burundaises de la Somalie ignorent complètement la réalité du travail des militaires burundais. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe.
Nous gardons l'espoir. En 2007, on ne parlait pas de Somalie, on parlait d'un territoire. Quand l'Ouganda est parti, les gens disaient « vous êtes fous ». Quand le Burundi est parti ici, ils disaient « mais c'est quoi le Burundi ?» On a fait la différence et on a écrit l'histoire de la Somalie. Le Burundi a écrit l'histoire de la Somalie. Par conséquent, nous considérons que l'Union africaine, les partenaires de l'Union africaine, l'Union européenne en premier, les Nations unies, doivent comprendre que c'est parce que, entre autres, le Burundi a participé à cette mission que la Somalie est ce qu'elle est aujourd'hui. Si d'aventure, il advenait qu'on néglige complètement l'importance de la MISOM, je crois que le Burundi consulte d'autres États contributeurs pour une action appropriée. Mais ce n'est pas une étape que nous envisageons. Nous voulons rester vrais et fidèles à nous-mêmes, c'est-à-dire continuer de contribuer pour la paix et la sécurité dans cette partie du continent et même partout ailleurs où le devoir nous appelle.
Sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, la société civile en exil se réjouit de la venue prochaine des troupes policières burundaises en provenance de la République centrafricaine. Mais le ministre Alain Aimé Nyamitwe tranquillise.
Admettons même l'hypothèse absurde que j'ai rejetée en tout cas, que les FPI, ce qu'on appelle les unités de police constituée burundaises, devaient être renvoyées. Admettons. Vous conviendrez avec moi qu'ils sont dedans aujourd'hui, qu'elles sont là. Et par conséquent, on ne pourrait pas faire comme s'il n'y a pas de policiers burundais en mission. Généralement, ce sommet, c'est au niveau des chefs d'État. Et je ne pense pas que les pays contributeurs de troupes ou de police, en tout cas, aux Nations Unies, soient invités au niveau des chefs d'État. Ça m'étonnerait. En tout cas, moi, je suppose à cette heure-ci que ce que vous avancez n'est que rumeur.
Plus de 5000 militaires burundais travaillent en mission de maintien de la paix en Somalie et des centaines d'autres policiers en Centrafrique. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe n'a pas exclu de quitter la CPI, la Cour pénale internationale de Fatou Bensouda, qui n'exclut pas de mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis les manifestations d'avril 2015 contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Mais tout sera avec le consentement d'un sommet des chefs d'État africains, a précisé le ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Il n'est pas rare de nos jours de voir des gens manger ensemble au restaurant sans se parler, mais en pianotant sur leur smartphone. Les yeux tournés vers le bas.
Ce genre de scène quotidienne est la matérialisation des pires craintes des personnes qui craignent la technologie. D'autres, cependant, disent que la technologie est en constante évolution et qu'elle peut permettre d'améliorer la vie. Des universitaires et des experts en technologie ont abordé ce sujet récemment à Los Angeles. Plus de détails avec Maïly Segel.
Repousser l'ennui, rechercher l'amour. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet. Écoutons Linda Birch de l'entreprise Common Sense Media, spécialisée dans l'étude des médias.
L'un des problèmes avec la technologie, c'est qu'on y pense souvent de manière machinéenne. C'est bon ou c'est mauvais? Mais en fait, c'est un outil.
Un outil qui aide les parents à rester en contact avec leurs enfants ou entre amis ou encore à améliorer son expérience d'achat. Un monde connecté est un monde plus riche, explique Bridget Carling de l'entreprise Intel, qui construit du matériel informatique.
Nous sommes à une époque où la technologie est évaluée non seulement pour le produit qu'elle est, mais aussi pour l'expérience qu'elle rend possible.
La manière de rencontrer des gens a changé avec Internet. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, les utilisateurs sont exposés à un plus grand groupe qu'auparavant. On peut rencontrer des gens de partout dans le monde, de toutes les cultures, il n'y a plus de barrières, comme l'explique Sam Yagan de OkCupid, site de rencontres américain.
De plus en plus, des mariages ont commencé par une rencontre en ligne. Et finalement, les mariages deviennent de plus en plus variés car on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas pu croiser dans la vie réelle.
L'autre avantage de la technologie, c'est qu'elle est un nouveau débouché pour les étudiants. Il y a quelques années, on ne pouvait pas faire carrière dans la technologie. Aujourd'hui, oui. Linda Birch.
La manière dont les enfants utilisent la technologie pour exprimer leur créativité est incroyable.
Mais parfois, cette excitation est tempérée par la crainte qu'ont de nombreux parents. Toujours Linda Birch.
Se disent, est-ce que ça ne va pas abîmer le cerveau de nos enfants? Est-ce qu'ils ne vont pas rester enfermés dans une bulle? Les enfants commencent à utiliser la technologie dès l'âge de 4 ans aujourd'hui. Ils sont souvent meilleurs que leurs parents et comprennent plus vite.
Alors que le débat se poursuit sur les avantages et les inconvénients d'un monde connecté, la technologie ne cesse d'évoluer. Il faut donc créer de nouveaux espaces de discussion sur la façon dont les gens devraient utiliser la technologie à bon escient.
Au Bénin, les écureuils vont-ils jouer dimanche prochain contre la Guinée équatoriale ? Difficile de répondre en tout cas, un premier obstacle a été levé. Hier, le tribunal de Porto Novo est revenu sur sa décision d'annuler le congrès électif que la Fédération béninoise de football avait prévu début mai. Des précisions avec Élisée Ungpatin à Cotonou.
C'est au lendemain de la crise que le ministre des Sports Oswald Romeki a eu avec les acteurs de la crise qui secoue le football béninois que la justice béninoise a décidé de lever la suspension du congrès électif de la Fédération béninoise de football. Un premier pas pour le dénouement de cette crise et surtout permettre aux écureuils de livrer leur match contre les Équato-Guinéens dimanche prochain. La balle est désormais dans le camp des protagonistes et conscients de l'enjeu. Le ministre des Sports a reçu les différentes parties qui minent ce sport dans le pays. À l'issue de cette assise, les trois camps sont tombés d'accord de confier la résolution de la crise au patron des sports béninois et ont marqué cette volonté par la signature d'un protocole d'accord. Idelve Yinkpo, le représentant des parties en conflit.
Il y a la soie dans la maison et d'ici à là, nous allons mettre tout en œuvre lors de nos différentes rencontres pour que nous, le peuple constate effectivement que la famille du football, à partir de cet instant, va se réunir. La preuve, vous avez vu pratiquement les protagonistes ensemble et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à une nation.
Très heureux de franchir cette étape, le ministre de la Jeunesse des Sports béninois revient sur cette réunion. Oswald Romeki.
Tous sont d'accord pour que nous puissions sortir de cette crise au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Protocole d'accord qui intègre qu'il souhaite désormais que la médiation se fasse sous la direction du ministre que je suis, parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'à l'étape où nous en sommes, seule la démarche que nous proposons humblement au nom du gouvernement et du chef de l'État leur convient et les rassure. Les conditions pour que le match ait lieu sont connues de tout le monde. Il est évident que si le match doit avoir lieu, cela dépend de ce qui se passe dans les heures à venir.
Les prochaines heures s'annoncent donc déterminantes pour les écureuils qui poursuivent leur préparation au stade Mathieu Kérékou. Ouma Tchomogo et ses poulains s'active pour prendre les 3 points du match face aux étoiles guinéens. Le sélectionneur des écureuils ne pense qu'au match.
Je pense que comme je vous l'ai dit hier, je reste technicien, je continue à travailler. Tout ce qui est autour du terrain, je ne m'en occupe pas vraiment. Je pense que ce qui est dit entre le ministre et nous reste entre nous. Le reste, c'est au ministre de vous le confirmer.
Le Bénin a donc au plus 48 heures pour se prononcer sur de nouvelles donnes et permettre ainsi éventuellement aux écureuils de jouer dimanche prochain face aux Nzalang National au stade Mathieu Kérékou. Élisée Rumpati, Cotonou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Georges-Léonard Sagnot en a assuré la mise en onde. Merci également à Charles Stone qui était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos plus d'un million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM. À Lomé 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.